grand témoin. Avec le même plaisir, pour le même devoir, Grand Témoin vous fait découvrir aujourd'hui Maître Marie-André Mouila Kayembe, défenseur de droits de l'homme. Ça fait 29 ans aujourd'hui qu'il est engagé dans la défense de droits de l'homme en RDC. Maître Mouila, c'est un plaisir de vous recevoir dans Grand Témoin. Bonjour et bon dimanche.
Bonjour Kelly.
Vous allez bien?
Très bien, merci.
Alors, dans notre entretien de tout à l'heure, on va vous présenter auprès des auditeurs des Radio Capi qui nous suivent en ce moment partout en RDC et même à l'étranger grâce à notre site internet www.radiocapi.net. Vous allez partager avec nous votre expérience dans la défense des droits de l'homme en RDC. Vous allez nous donner votre point de vue du respect des droits de l'homme en RDC. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce que ça évolue positivement ou négativement? Ça sera dans cet entretien. Mais avant cela, on va faire un grand pas en arrière pour parler de votre enfance. Vous êtes né en 1959.
Oui, exact.
Le 24 avril.
Le 24 avril.
Vous êtes né au Kassai occidental.
Oui, affirmatif.
Où précisément?
En Dekesha.
Et c'est là où vous avez grandi?
Non, j'ai grandi au petit séminaire de Kaboué, toujours dans le Kassai, et puis juste après les humanités, je suis venu à l'université de Kinshasa.
Vous avez grandi au petit séminaire? Pourquoi? Ouais. Vous n'avez pas grandi avec vos parents?
Non, puisque au petit séminaire, il y a un internat. C'est là où j'ai commencé
l'école primaire
et puis et l'école des études d'humanité.
Ouais. Vous êtes séparés assez tôt de vos parents quand même, jeune.
Ouais.
Pourquoi? C'était voulu par les parents?
C'était la seule
bonne école qu'il y avait là-bas.
Ce qui est vrai, c'est que c'était l'une des meilleures écoles et puis aussi par vocation puisque je tenais à être prêtre.
Ouais. Malheureusement. Vous n'êtes pas allé jusqu'au bout. Qui vous a détourné de cette vocation ou qu'est-ce que vous a détourné de cette vocation?
Non, seulement une courte réflexion, parce que je m'étais dit que voilà, que je pouvais aussi bien servir Dieu autrement en tant que avocat, défenseur de l'homme, que pas nécessairement en tant que soutane blanche. Donc la vie a fait que je me retrouve à l'université.
Donc primaire, secondaire au Kassai occidental, au petit séminaire de Kaboué.
Ouais.
Et puis vous venez à Kinshasa pour vos études universitaires.
Affirmatif, ok.
Vous avez une licence en droit économique et social à la faculté de droit.
Exact.
De l'université de Kinshasa.
Ouais.
Que vous avez obtenue en 1982.
86.
Votre licence.
Ouais.
En 86.
Ouais.
Alors parlez-nous de votre enfance. Vous avez grandi dans quelles conditions?
Bon, je peux dire que j'ai grandi dans des bonnes conditions parce que je suis né d'une famille de 7 enfants, avec deux garçons, dont moi, et puis 5 filles. Et mon père enseignant, ma mère enseignante, et puis mon père a évolué, de l'enseignant à être inspecteur, et puis il a pu aussi s'occuper des fonctions de député, et puis il était très engagé dans la société civile comme moi. Donc c'est dire que j'ai eu des conditions de vie,
une vie aisée,
disons moyenne quoi, une vie moyenne. Et puis j'ai été au séminaire de Kaboué aussi, c'était l'une des meilleures écoles. Donc disons que j'ai pas vraiment à me plaindre pour mon enfance.
En ce moment-là, c'était encore des blancs qui donnaient cours?
Oui, il y avait des blancs et aussi de noirs. Mais alors de noirs, AB, bien formés.
Mm-hmm.
Ouais.
Quel est le souvenir qui vous a le plus marqué pendant votre enfance?
Les
souvenirs, il y en a beaucoup, je sais, hein, il y en a beaucoup. Mais est-ce qu'il y a un souvenir qui vous a marqué, qui vous a le plus marqué?
Non, pendant mon enfance... Je peux dire que j'ai beaucoup souffert surtout du changement de vie, c'est-à-dire quand j'ai quitté le séminaire pour aller à l'université. J'avais demandé à mon évêque d'accepter que j'aille faire l'université et après d'entrer au séminaire. Parce que j'avais peur de faire d'abord le grand séminaire et puis vous terminez et puis on vous envoie dans un village et tout ça perdu. J'ai demandé d'abord faire l'université. Malheureusement, l'évêque avait refusé. C'est qui m'avait obligé, malgré moi, de quitter le grand séminaire et d'aller à l'université. Ça, j'ai beaucoup regretté.
Vous avez regretté le fait de quitter le séminaire?
Le séminaire,
vous auriez
oui.
bien voulu rester au séminaire.
Oui, vraiment, je tenais vraiment à avoir la vie, c'est sacerdotale, oui.
Alors, vous arrivez à Kinshasa pour vos études universitaires. C'était quoi votre première impression lorsque vous avez atterri à Kinshasa?
Bon, je dois vous dire que j'ai aimé Kinshasa, c'était encore à ses débuts. D'abord, la première impression, c'est que j'étais impressionné, et comme je venais d'une province, je vois pour une fois depuis l'aéroport de Ndjili jusqu'à en ville. À l'époque là, il y avait encore de la lumière à l'époque là, etc. Alors je voyais un pont aérien là-bas éclairé, c'était vraiment formidable. J'étais un peu impressionné par ça, mais à part ça, bon.
Vous avez aimé la ville, vous êtes tombé amoureux de Kinshasa.
Oui, j'aime Kinshasa, je me suis habitué, oui.
Vous êtes adapté facilement à l'université.
Oui, à l'université, vraiment adapté. Sauf que les premières semaines, j'étais un peu impressionné, quoi, parce que comme je venais d'abord du séminaire,
et puis je vais, que des garçons à l'université, c'est mixte, il y a des garçons.
Effectivement, la première fois, je vais à la faculté le soir. Vers 21h, je quitte la faculté pour aller au home. Pouf, je suis surpris de voir que tout le trajet, il y avait des couples qui s'embrassaient. Alors, j'ai dit, mais ça, c'était un monde de fou, quoi. Bon. Et puis, bon, quand même, après, on s'est habitué, quoi.
Vous êtes entré aussi dans le bain, quoi.
Pas tellement, oui. On est entré dans le bain aussi, quoi. Mais pas avec autant de fou que ceux qui étaient déjà habitués.
Alors, maître Bill, ouais. Quel est votre plat préféré?
Bon, j'ai pas de particularité côté plat, j'accepte tout. Bon, mais en tout cas, j'ai pas vraiment de préférence. Je ne suis pas vraiment attaché à la nourriture. Je mange tout ce qu'on m'offre, puis j'aime tout ce qu'on m'offre.
Tout ce qui est comestible, vous mangez?
Oui, je mange. Oui. Bien sûr, il y a des animaux que je mange pas. Ouais.
Et qu'est-ce que vous détestez dans la ville? Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans la vie?
Je n'aime pas de déception. Je n'aime pas de mensonges. Je n'aime pas de flatterie.
Mais est-ce que vous avez déjà été déçu un jour dans votre vie?
Oui, oui, j'ai déjà été un peu déçu, hein, mais pas déçu, surtout dans la vie, je peux dire, professionnelle, quoi, mais pas dans la vie affective, non. Dans la vie professionnelle, vous voyez, quand des fois vous évoluez dans un milieu où il y a quelques incompréhensions, disons, mettons un peu. Déçu surtout, je dirais, par la gouvernance publique. Parce que c'est elle qui est à la base de toutes les déceptions. Hein, quand vous donnez pour votre pays, pour la nation, vous sentez que le gouvernement, l'État ne répond pas à la demande de la population. C'est ça vraiment la grande déception que moi j'ai.
Marié, père de combien d'enfants?
Oh, j'en ai 8.
Pourquoi vous vous exclamez, oh, j'en ai 8 hein?
Oui, effectivement, actuellement, quand on parle de 8 enfants, ça fait un peu tiquer. Bon, est-il que nous, on a commencé il y a longtemps, quoi. Bon, j'en ai 8.
Vous avez commencé il y a longtemps, quoi, à avoir des enfants?
Oui, j'en ai 8.
Ouais. Alors, maître, on va parler de votre parcours professionnel. Lorsque vous quittez l'université, qu'est-ce que vous avez fait?
Quand j'ai quitté le séminaire, sincèrement, j'étais encore tenté de rentrer. Quand j'ai quitté
l'université,
oui, j'étais tenté de rentrer encore dans un couvent. Mais j'ai passé une année de flottement et de réflexion. C'est là où j'ai dit ceci, j'ai dit, bon, est-ce que pour servir Dieu, il faut nécessairement rentrer au couvent? Je dis non, Dieu, on peut partout servir partout. Loin. C'est ainsi qu'après un an d'égarement, disons de flottement, j'ai embrassé le cahier d'avocat. J'avais demandé déjà d'être avocat depuis longtemps, mais à notre époque, les admissions, ça prenait du temps, un à deux ans. Moi, j'ai fait un an et puis j'avais été admis au barreau de Kinshasa.
Matete.
D'abord à la Gombe, ça j'ai commencé. Matete a été créé après. J'étais parmi les avocats fondateurs du barreau de Matete.
Lorsque je parcours votre CV, je vois spécialiste des procès politiques et sensibles.
Effectivement, comme je l'ai dit, d'abord, quand je me suis fait avocat, je me suis dit désormais, je peux servir Dieu partout où je suis. Maintenant, je suis avec ma toge noire. Je peux aussi servir Dieu comme si j'avais la soutane blanche. C'est là où je me suis engagé. Alors maintenant, j'ai dit comme compensation de ma vocation manquée en tant que prêtre, je me suis maintenant engagé dans la défense des droits humains et j'ai commencé par passer mes week-ends dans des prisons pour prier avec des prisonniers. J'ai commencé doucement à leur apporter l'assistance gratuite. Alors c'est ainsi que, très jeune, j'ai pu gérer des procès tels que, à l'époque, c'était, je ne sais pas, lors de la conférence des nations souveraines, le procès de Lutin de la Voix du Zaïre, les procès des syndicalistes, les procès des journalistes, les procès des militaires. Alors, c'était en fait ça ma vocation. Donc j'ai fait, et aussi récemment, le procès chez Béa, etc. Donc je suis dans tous ces grands procès-là, j'étais là.
Alors maître André Mouila, vous lancez dans la défense des droits de l'homme. Vous avez commencé votre lutte, hein, disons, depuis 1986.
Ouais.
C'était quoi le déclic? Qu'est-ce qui vous a motivé? Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans la défense des droits de l'homme?
C'est seulement la réponse à cette question ici. Aujourd'hui, je suis devenu licencié en droit et je vais prêter serment pourquoi je le fais. Je n'ai pas eu de particuliers mérites dans ma vie. Si j'avais atteint ce niveau-là, m'étais-je dit, c'est par la grâce de Dieu. Alors, qu'est faire à mon niveau en reconnaissance à cet amour infini envers Dieu? Alors, c'était quoi? Me mettre au service de mon prochain avec le droit. C'est ainsi que est née la vocation de la défense des droits humains, qui a commencé d'abord, comme je l'ai dit, c'est par assister les indigents, les veuves, maintenant jusqu'à embrasser maintenant les faiseurs d'opinion, etc. C'est en fait un peu ça. C'est pas un déclic, mais en fait c'est la compensation de ma vocation manquée de prêtre.
Et en 86 déjà, est-ce que on notait beaucoup de violations des droits humains?
Il y en avait beaucoup. Vous vous souviendrez que c'est presque à la même année que j'ai eu à être formé, j'ai participé à la constitution de la Ligue des droits de l'homme avec Bwanakabwe. C'est en fait lui qui est mon grand maître qui m'a mis un peu le pas dans le bain. Et déjà à l'époque là, vous savez qu'il y avait beaucoup de violations. Il y avait même déjà le massacre des étudiants à Lubumbashi. Il y a eu des massacres des Katakelaï là-bas au Kasai occidental. Il y a eu à l'époque où le Marcel Mobutu avait fait bombarder des villages au Katanga, dans le Bandundu par-ci par-là.
Et vous alliez vers ces victimes, ou ce sont les victimes qui venaient vers vous à cette époque?
C'était dans les deux sens. Il y a par exemple les victimes qui venaient nous demander assistance, qui venaient nous dénoncer leurs violations, et nous on les relayait sur le plan national et international. À part même les dénonciations, nous avons eu à faire beaucoup de formations aussi, puisque pour renforcer les capacités de la police, puisque non seulement nous dénonçons, mais aussi nous participons, nous contribuons en renforçant les capacités des agents qui sont appelés à respecter les droits humains. Donc, c'est ce qu'on a fait, des formations, de sensibilisation, d'éducation, de la base, etc.
Alors, vous avez été membre de plusieurs ONG de défense des droits de l'homme.
Oui.
Vous avez commencé par quoi? Par où avez-vous commencé?
Oui, ma première organisation où je travaillais, c'est dans la Ligue des droits de l'homme avec M. Bwanakabwe. C'était en fait presque la première grande organisation de l'époque. Et après Bwanakabwe, avec la Ligue, c'est là où maintenant je me suis dit que j'ai beaucoup appris avec Bwanakabwe dans la Ligue des droits de l'homme, mais j'avais constaté que malheureusement, dans mon secteur de travail, les avocats et les magistrats n'étaient pas vraiment bien sensibilisés en matière de droits humains. Vous voyez, à l'époque là, vous en souviendrez, quand le peuple menait son combat pour le changement sous Mobutu, on voyait des étudiants qui marchaient, des fonctionnaires, des syndicalistes, et même des fois des médecins avec le docteur Fenoumbi. Et par contre, les avocats et magistrats s'érigeaient presque en maillon de répression de la dictature. C'est ainsi que j'ai pu quitter la Ligue pour maintenant créer l'ONG Toge Noire, dont je suis le promoteur, c'est-à-dire maintenant avocat, défenseur des droits de l'homme. Donc c'est en fait un peu prendre l'expérience acquise dans la Ligue des droits humains et maintenant l'orienter dans le secteur des avocats, de la justice et des magistrats.
Toge Noire, pourquoi?
Toge Noire, parce que c'est la robe que portent les avocats.
Oui.
Et nous avons fait aussi un parallélisme qui est celui-ci. Hier, quand on était au séminaire, on se préparait à être prêtre, on portait les soutanes blanches. Et maintenant, nous sommes avec des robes blanches, des robes noires. Hier, quand on était encore au couvent, on avait la Bible. Aujourd'hui encore, on a la Bible. Mais quand on est toge noir, nous avons le code. Bon, là-bas c'était la loi, et maintenant aujourd'hui nous avons notre évangile. Voici seulement ce parallélisme-là pour dire que voilà, nous sommes des avocats, mais défenseurs des droits de l'homme dans la justice. C'est ça la robe noire.
Toge Noire existe depuis quand? Depuis quelle année?
Toge Noire a été créée dans l'informel en 88, et puis on est sorti ouvertement 2 ans après. Oui.
Donc en 90, officiellement.
Oui.
Et Toge Noire a son siège, bien sûr, ici à Kinshasa. Ouais. Mais dans les provinces, est-ce que vous avez des antennes?
Nous avons seulement des correspondants. Des correspondants qui nous
qui vous font les rapports de toutes les violations des droits humains.
Pas toutes, mais du moins celles qui tombent sur leurs mains.
Et vous, au niveau de Kinshasa, vous faites quoi?
À Kinshasa aussi, nous faisons le monitoring, l'observation. Nous faisons des sensibilisations, nous faisons des formations, etc. On a formé des policiers, comme je l'ai dit ici, des agents de renseignement, des militaires, et même aussi des parajuristes, des veuves, tout ça, etc. On a formé. C'est ça.
on accuse quand même certaines ONG de défense des droits de l'homme d'être partiales dans les rapports qu'elles font.
Bien sûr, vous savez, on accuse certains ONG. Je ne sais pas répondre au nom de toutes les ONG, puisque comme vous le savez, RDC, c'est comme ça. Il y a dans toute organisation, il y a des bons élèves, il y a des mauvais. Hein, certains qu'il y a aussi parmi nous aussi des mauvais élèves. Mais en général, ce qui est vrai, c'est que nous, les défenseurs des droits humains, souvent sommes mal compris. Nous sommes mal compris par l'autorité. Vous avez vu par exemple sur Mobutu, les tenants du pouvoir nous ont torturés, nous ont martyrisés, etc. Et nous ont accusés d'être de l'opposition. Et quand Kabila Peel est arrivé ici, ceux qui étaient au pouvoir, qui étaient victimes de violations, sont venus nous voir. Nous les avons assistés. Les tenants du pouvoir sous le régime de Kabila Peel nous ont tous accusés de l'opposition. Et aujourd'hui, et ceux qui sont au pouvoir avec le Kabila, papa, le président Kabila, le fils, nous accusent aussi d'être de l'opposition. Donc, c'est en fait un peu ça parce que nous dénonçons, alors que nos dénonciations pouvaient être comprises.
Est-ce que vous n'exagérez pas non plus dans vos dénonciations?
C'est ce que j'ai dit, hein, il y a certains qui exagèrent peut-être, de bonne ou de mauvaise foi, parce que des fois on peut exagérer quand on n'a pas assez d'expertise dans ce qu'on fait. Ça arrive qu'on exagère, mais dans la plupart des cas, ce qui est vrai, c'est que le pouvoir, qui est notre interlocuteur, n'accepte pas le dialogue. D'abord, ne veut pas nous accepter, c'est ça que nous sommes. Je suis certain que si seulement il y avait un dialogue qui était établi entre nous, le pouvoir, un dialogue bien sûr responsable, et il n'y aura plus d'exagération, etc.
Alors, puisque nous parlons déjà des droits humains, quel bilan peut-on faire à ce jour de la situation de droits de l'homme en RDC?
Il faut avouer que il y a par-ci par-là quelques avancées. Quelques avancées actuellement. Par exemple, je peux dire qu'il y a une évolution en dents de scie. Et cela avec des cas concrets. Vous vous souviendrez, quand nous sommes partis, par exemple, à Sun City, nous avions pu arracher la création de ce qu'on a appelé l'Observatoire National des Droits Humains. Là, c'était déjà une avancée. Mais juste après la transition, on a dissous ça. Vous voyez? Et aujourd'hui, on commence encore, on s'est battu pour encore avoir la Commission nationale des droits de l'homme. Bon, aujourd'hui, on l'a, bien merci. Mais il faut s'avouer que... Dans sa mise sur pied, dans sa composition, il y a eu encore l'élément politique qui est intervenu. Donc c'est dire que c'est un combat à mener au jour le jour. Il faut avouer que quelque part il y a eu un peu d'évolution. Par exemple, comme j'ai dit ici, avant, quand on créait une telle institution, le pouvoir gérait tout à la fois. Mais cette fois-ci, comme on a senti que le pouvoir a tenté plusieurs fois de nous manipuler, mais n'a pas réussi à 100%. C'est qu'on a un peu gagné 50%, mais néanmoins, le pouvoir a pu agir. C'est déjà positif. Mais il faut avouer que aujourd'hui aussi, il y a certains cas qui énervent. Quoi. Par exemple, il est encore sur la table le dossier de ce qu'on appelle ici fosse commune, tombe commune, par-ci par-là. Il y a le dossier de Bourdjakon qui est là, ça c'est récent. Il y a le dossier de Chebeya qui a été assassiné, ça c'est récent. Il y a le dossier à l'Est des hommes des médias qui sont assassinés, etc. Donc je peux dire que, en termes de dossiers, peut-être que sur Mobutu, ça se faisait un peu en silence. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'yeux, on voit beaucoup de choses que, sincèrement, le bilan n'est pas bon. Mais, il faut encourager les autorités à faire davantage mieux.
Alors, en 29 ans de carrière dans ce combat pour le respect des droits de l'homme en RDC, qu'est-ce que vous gardez de positif?
Ce qui est positif, c'est que quand on défend les droits humains, et ça vous devient comme une passion, et ça fait du bien quand vous avez l'espoir de vivre. Et au jour le jour, dans ce comme combat, nous sentons que par notre apport, Le jour où nous arriverons à nous faire comprendre par le pouvoir, à nous faire accepter par le pouvoir, le jour où le pouvoir pourra commencer à capitaliser nos rapports, je pense que vraiment nous contribuerons vraiment positivement au changement dans notre pays. Et c'est ça vraiment notre satisfaction.
Est-ce qu'il y a quelque chose de négatif qui vous a marqué pendant ce 29 ans de carrière, vous personnellement? Parce que vous avez déjà reçu des menaces.
Oui, les menaces, les arrestations, tout ça. Mais sincèrement, ce qui m'a le plus touché dans ce combat ici, c'est que il est vrai que tous les droits fondamentaux, toutes libertés fondamentales sont importantes. Hein. Mais pour une fois, et puis j'ai fait beaucoup de formations sur ça, mais pour une fois, hein, j'ai senti ce que c'est le poids de ce qu'on appelle une discrimination. Une discrimination qui est d'ailleurs interdite par notre constitution. Mais c'est quoi? Vous sentez que le pouvoir vous refuse l'accès à une fonction publique par le simple fait des convictions qu'il vous attribue. C'est quoi concrètement? Récemment, bon, puisqu'on a parlé de la Commission nationale des droits de l'homme, j'ai senti et j'ai vu des éléments que les batteries étaient mises en charge pour dire ceci, non à Maître Mouila, parce que on l'accuse d'avoir des accointances avec l'opposition politique. Et c'est pour ça le motif qu'on a été écarté. Vous sentez que quand on vous fait une telle frustration...
Quelqu'un qui vous a rapporté ça ou bien vous avez des preuves de cette...
Les preuves sont celles-ci. La société civile, puisque d'après la loi, il y a deux phases dans la désignation. La société civile désigne 18 candidats et sur les 18 candidats, l'Assemblée en choisit 9. Alors, quand on a commencé le processus, la société civile a désigné 20 candidats au lieu de 8, de 18 et a demandé au président de l'Assemblée, par l'arbitrage, d'aider à réduire le nombre de 20 à 18 en réduisant dans la thématique où il y avait eu plus de candidats. Et sur les 20 candidats qui étaient présentés, il y avait 3 provinces qui avaient 2 candidats où il y avait qu'un seul candidat. Le Katanga avait un seul candidat, la province orientale un seul candidat et le Kasai occidental un seul candidat. Comme parmi les principes qui avaient été établis pour le choix, on devait prendre en compte le genre et la représentativité nationale. Cela veut dire que pour arriver de 20 à 18, et puis 18 à 9, les candidats originaires de provinces où il n'y avait qu'un seul candidat étaient déjà favorisés, déjà retenus. C'est pendant ce processus-là que le président de l'Assemblée va demander à une composante d'ajouter encore un candidat du Kasai occidental. Et on dit non, il y en a déjà un qui est là. Pourquoi on doit encore en ajouter? Il dit bon, quand vous refusez, je veux maintenant agir. Et il prend les 9, on choisit. Et le Kasai occidental n'est plus représenté parce que Maître Mouila était là le seul candidat. Ça, c'est vraiment la preuve d'une discrimination. Mais sincèrement, j'en parle juste maintenant comme juste une leçon à tirer, quoi. Mais je dis non, merci beaucoup, puisque maintenant, moi, je dois positiver ça. Je dis bon, merci. Peut-être que cette discrimination-là m'aurait épargné de par-ci, par-là, par-ci, par-là.
Mais vous regrettez quand même de ne pas faire partir de cette Commission nationale de droits de l'homme?
Non, pas regretter pour ne pas faire partie, mais d'avoir été victime d'une discrimination. Ce qui n'est pas digne vraiment d'un État respectable.
Bon, j'ai entendu plusieurs candidats dire la même chose. Finalement, on n'allait pas tous vous prendre.
Vous avez raison. Mais est-il que le cas Mouila a été un cas spécial? D'ailleurs, le cas avait même été débattu à l'Assemblée. Mais le président l'avait évité. Mais vous voyez bien que tous les 3 candidats, sur les 3 candidats qui étaient le seul au nom de leur province, c'est le seul Maître Mouila qui n'est pas là. Des 2, c'est la seule province avec un candidat pour lequel on cherchait encore un candidat additionnel. Bon, c'était très clair que c'était ça. Bon, mais bien sûr, c'est déjà passé, qu'on remet ça entre les mains du bon Dieu.
Alors, on va souffler un peu, ouais. Maître Mouila. Comment vous passez vos moments de détente?
J'aime du sport. Quand j'étais jeune, j'ai fait beaucoup d'arts martiaux. Maintenant, de temps en temps, je fais la musculature. J'aime beaucoup la musique et la lecture. J'aime des films, etc.
La musique, quel genre de musique vous aimez écouter?
J'aime toutes les musiques.
Vraiment, vous n'avez pas de préférence?
Moi-même, je suis musicien, j'ai fait la musique.
Ah bon?
En plus, j'ai fait la basse.
Vous avez chanté?
Oh, oui, j'étais dans l'orchestre du campus, Fantôme. On a joué, on avait l'orchestre.
Comment ça s'appelait, Fantôme?
Fantôme. On y a joué avec certains collègues qui sont maintenant des ministres, qui sont d'anciens ministres, qui sont membres de la commission, de la cour constitutionnelle, etc.
Vous chantiez aussi ou bien vous étiez juste à la guitare basse?
Moi, c'est la guitare basse qui m'intéresse.
On va vous faire plaisir en écoutant une chanson. Laquelle vous ferait plaisir en ce moment, Maître Mila? Qu'est-ce que vous avez envie d'écouter?
Je peux improviser, bon. Un morceau de Fally m'arrangerait. Un morceau de Fally.
N'importe quel titre de Fally.
Oh ouais, ça m'arrangerait.
Dernière matière, quoi de Fally, Poupa?
On
va balancer quelque chose de Fally pour le plaisir de mettre
Marie-André
Mouyakaimbe que nous recevons dans Grand Témoin, mais aussi pour le plaisir de tous les auditeurs de Radio Okapi qui nous suivent en ce moment sur la fréquence FM et sur www.radiookapi.net. On se retrouve juste après pour la suite de notre entretien.
Mama Ode Mabaya, papa de Jano Makukula na maître, oui je lui abeille. Tu as Céline et Foudi, maman la Latifa na Aziz et Nito Makukula.
Ebele ya bambula, tovani nga na yo, mokolo moko osma, iyo bota ni manso, lo yenge ya moki, ezipi yo pomoye, yo zoyo kate.
Yeah.
zongi sanga na motema yo zambe madina jungenge
de leur vie, de leur parcours et se livrent à cœur ouvert. Grand Témoin invite des femmes et des hommes de culture, des acteurs politiques, sociaux et du monde économique qui ont croisé différents événements et les changements qui ont accompagné les grandes étapes de la construction du pays. Grand Témoin, 45 minutes pour mieux comprendre notre histoire commune racontée par ces acteurs. Tous les dimanches, 12h15, heure de Kinshasa, en compagnie de Kéline Kouté sur Radio Okapi.
Grand Témoin vous fait découvrir aujourd'hui Maître Marie-André Mouila Kaembe, défenseur de droits de l'homme, 29 ans dans ce combat ou dans la lutte pour le respect de droits de l'homme. Maître Marie-André Mouila, vous avez occupé aussi des mandats publics.
Oui, j'ai été membre de la, ce qu'on appelait à l'époque la Commission nationale des élections. J'ai été, après les dialogues intercommunaux Sainte City, député de la transition
pour le compte de la société civile.
Et j'ai été aussi membre du conseil d'administration de l'OFIDA, toujours pour le compte de la société civile. Donc sous la formule 1+4.
Vous n'êtes pas tenté de vous lancer dans la politique?
La politique. Bon. Sincèrement, présentement, je ne suis pas encore vraiment tenté par la politique. Je me trouve bien dans la peau du défenseur des droits humains. Okay. J'aime bien former les politiques en matière d'élection. Je suis aussi animateur de le réseau RENOSEC qui forme les politiciens, les électeurs, les candidats, etc.
Vous formez les politiciens
dans l'observation des élections, dans comment faire les campagnes, tout ça, politique, etc. Tout ça. Donc tout ce qui a trait aux élections, tout ce qui a trait à la gouvernance interne des partis politiques, etc. Oui.
Peut-être pas. Aujourd'hui, peut-être vous ne pensez pas à ça, mais vous vous dites quand même un jour, pourquoi pas.
Ça peut arriver. Ça arrivera. Vous savez que le grand problème dont souffre notre pays, c'est le leadership politique. J'espère que nous serons obligés un jour d'arriver à cela. En tout cas, je le pressens, ça viendra sans doute. Ça viendra.
Leadership politique
Bon, jusque-là, nous faisons des formations un peu techniques, comment faire, que faire par-ci, par-là. Mais j'ai compris que le grand problème que nous avons aujourd'hui en RDC, c'est la culture associative. Comment vraiment arriver à amener les gens à mettre ensemble leurs moyens, leurs intelligences, leurs biens. Vous voyez, nous avons beaucoup de partis politiques. Nous devons amener à les aider à se regrouper. Nous avons beaucoup de petites sociétés. Hein, on doit les aider à se regrouper. Donc, nous voulons développer maintenant cette formation-là que je peux appeler comportementale. Comment vraiment nous amener à nous regrouper et à faire un peu des entreprises politiques, je dirais. Donc, dès qu'on va vraiment développer ces modules-là, vraiment là, je vais aller en politique.
Alors, Maître Marie-André Mouila, aujourd'hui, on a une commission nationale de défense des droits de l'homme. Vous pensez qu'avec cette commission en RDC, les violations de droits de l'homme vont diminuer?
Bon, d'abord, je vous rappelle, avec un pas en arrière, on s'était battu pour, comme je l'ai dit ici, l'Observatoire national des droits de l'homme. Ça a été ce que ça a été. Après, ça a été dissous. Maintenant, nous avons la nouvelle commission qui est créée. Je sais que cette commission a été créée parce qu'on l'a voulu. On a fait pression. Le pouvoir n'en voulait pas. Le pouvoir n'en veut pas. Aujourd'hui, c'est pas parce que nous en avons été, on a l'accès qu'on va laisser la commission. Non. Nous pensons que nous allons aider cette commission par nos conseils, par les renforcements de capacité, par le réseautage. C'est vraiment une commission qui va contribuer tant soit peu au changement. Mais à une condition, comme je l'ai dit, qu'elles soient ouvertes aux sollicitations et au soutien que vont leur porter les ONG spécialisées dans la matière. Donc la commission est déjà là, je sais tout ce qu'elle a comme faiblesse, hein, mais on ne doit pas la laisser comme poids de politique. On doit tout faire pour la récupérer et la renforcer.
Vous savez tout ce qu'elle a comme faiblesse, mais elle n'a même pas encore commencé à travailler.
Non, mais vous savez, quand on évalue la commission, hein, d'abord on évalue la phase de la loi qui la constitue. Ça, on l'a fait. Maintenant, il y a la phase de sa composition. Déjà, à ce niveau ici, on peut voir telle qu'elle est constituée, quels sont ses points forts, ses points faibles, qu'est-ce qu'elle a comme opportunité, qu'est-ce qu'elle a comme risque. Et tout cela, déjà, nous avons. Il y a combien d'activistes, il y a combien de juristes, il y a combien de députés par-ci, par-là. On sait voir. Il y a combien de femmes. Et avec ça, on peut déjà faire des projections. Sur base desquelles, maintenant, on peut penser à apporter des renforcements de capacité. Donc, on fait l'évaluation pour voir dans quelle mesure la renforcer de façon positive. Et on espère que si elle est ouverte à ce renforcement-là, que les amis, les uns et les autres vont lui apporter.
Alors, vous espérez que si elle est ouverte, mais normalement, elle doit être ouverte à toutes ces associations ou toutes ces ONG de défense des droits de l'homme. Elle doit travailler avec toutes ces ONG.
Vous savez, j'ai dit ici que dans sa composition, il faut qu'on soit sincère, le pouvoir a pu influer à 50%. Pour faire placer des pions à 50%. Ce sont des pions qui, automatiquement, devront être redevables. Il nous appartient à nous, par des formations, par des campagnes de sensibilisation, de responsabilisation, à amener ces 9 membres à comprendre que leur mission, une fois désignée, n'est plus encore de rester à la solde de ceux qui ont participé à leur désignation, mais vraiment à servir la cause de façon de droits humains. C'est en fait un combat qu'on doit mener. Et je pense qu'on peut y arriver. Mieux vaut faire ça que la laisser comme la proie des politiques qui vont maintenant faire n'importe quoi. Donc nous avons confiance dans nos collègues qui ont été désignés. On va leur apporter notre expertise, notre soutien. Et jusqu'à ce qu'on soit satisfait de voir que la commission atteint vraiment sa vitesse de croisière telle que nous le souhaitons.
Alors, Maître Marie-André Mulat, qu'est-ce qu'il faut pour devenir défenseur de droits de l'homme ou de droits humains? Est-ce qu'il faut suivre une formation particulière? Il y a des études pour ça? Ou bien tout le monde peut devenir défenseur de droits de l'homme?
Je vous dis que Kelly, vous-même, êtes déjà défenseur de droits de l'homme. Vous l'êtes aussi, vous l'êtes des médias. Donc, presque tous, nous sommes préparé, disposé à être défenseur de l'homme. Maintenant, c'est question de défendre ces droits-là. Donc, on n'est pas... Bien sûr que la formation vient nous donner des outils, tout ça, nous aider, nous renforcer, ne pas le faire. Mais, normalement, tout chrétien, tout musulman, tout praticien, en fait, d'une religion quelconque, dès qu'il met ça en pratique, est défenseur de l'homme. Mais, la différence est que nous le faisons tellement de façon organisée, de façon professionnelle, habituée au point où nous sommes défenseurs. Mais tous, dès que vous posez un seul acte de promotion de défense des droits de l'homme, comme vous le faites, avec la communication, vous êtes défenseur des droits de l'homme. Nous sommes ensemble.
Alors, Maître Marie-André,
oui. C'est un peu drôle, bien sûr.
Oui, justement, j'avais dit ça. Marie-André, ça ressemble plutôt à un prénom féminin, quoi.
Oui, effectivement, partout ça fait tiquer. Mais c'est ça mon prénom, Marie-André. Et souvent, je me dis que, à mon nom, vraiment, c'est. Mon nom est vraiment l'expression du genre. Donc, c'est un nom genré. Marie-André, oui.
En dehors de votre diplôme de licence que vous avez reçu à l'Université de Kinshasa, votre diplôme de licence en droit, droit économique et social, est-ce que vous avez suivi, vous, particulièrement, une formation en défense du droit de l'homme?
Oui, j'en ai eu plusieurs, beaucoup de formations qu'on a eues ici, sur place, avec le Bureau Nations Unies pour les droits de l'homme, beaucoup de formations qu'on a suivies à l'extérieur. Je vous ai dit que depuis hier, je viens encore d'une formation, je suis dans le pool des avocats, défenseurs des droits de l'homme de l'Afrique de l'Est, ce qui fait que nous avons des formations permanentes. À part ça, j'ai eu une formation de 45 jours aux États-Unis, sur le des jeunes leaders africains, etc., à qui on aborde et la gouvernance politique et les droits humains, etc. Donc c'est vraiment au quotidien, hein, c'est en fait un peu, je dirais que quand on est défenseur des droits de l'homme, on fait de la formation sur sa tasse de thé. On l'apprend régulièrement ce thé-là, oui.
Maître Marie-André Mella, la technique me signale que nous n'avons plus beaucoup de temps. Nous sommes à la fin de notre entretien, n'est-ce pas, Paul Badianyama? Voilà, nous sommes à la fin de notre entretien. Peut-être un dernier mot à tous ces auditeurs de Radio Capi qui nous suivent en ce moment, toutes ces personnes qui pensent qu'il n'y a plus d'espoir de croire au respect des droits de l'homme en RDC. Qu'est-ce que vous leur dites?
Bon, d'abord, c'est vous remercier pour l'invitation, formidable. Et puis, non, les droits de l'homme, c'est en fait un idéal qui doit être réalisé au jour le jour. Et c'est un combat dans lequel on doit gagner des espaces de liberté au fur et à mesure, ne jamais s'arrêter jusqu'à ce qu'on puisse atteindre un niveau élevé de perfection. À part ça, vraiment, je ne peux que vous remercier pour votre émission et surtout pour Okapi avec tout ce qu'il a comme degré de professionnalisme.
Merci, Maître Marie-André Mila. C'est la fin de cet entretien. Merci à Paul Badianyama qui était à la prise de son au micro Kéline Kouté. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.radiookapi.net. Encore merci, Maître, d'être venu.
Merci beaucoup, Madame Kelly.
Bon dimanche chez vous et bonne suite de programmes sur la fréquence de la paix.